Bonjour.
Après l'ouverture mouvementée du Salon de l'agriculture samedi, la presse revient largement sur les sifflets qui ont accueilli Emmanuel Macron.
Oui, et à en juger par les manchettes des journaux, le happening espéré par le président de la République n'a pas tourné en sa faveur. Macron défend sa ligne malgré le raté du Salon de l'agriculture, titre Le Figaro, à qui le président s'est confié ensuite. C'était le bordel, regrette Emmanuel Macron. À la fin, c'est toujours mieux quand les gens se causent. L'opinion aussi parle de grand ratage et résume « La visite présidentielle a laissé un goût amer » aux professionnels. Pour Libération, c'est la campagne des européennes qui a commencé ce week-end avec le duel à distance sur le salon de l'agriculture entre le président et Jordan Bardella. Bras de ferme, ironise le journal, et La Croix dresse le même constat avec ce titre « Champ de bataille ».
Et Le Parisien a interrogé des agriculteurs dans les allées du salon pour essayer de cerner leurs affinités politiques. Aucune tendance très nette ne se dégage.
Sauf une vraie perplexité. La plupart de ceux que le journal a sollicités répondent qu'ils ne savent pas pour qui ils voteront aux européennes de juin. On va de désillusion en désillusion, dit Jérôme Céréalier de 55 ans. Il observe que beaucoup d'agriculteurs se disent proches de Marine Le Pen. Laurent, arboriculteur en Corrèze, a voté blanc au second tour en 2022 et il n'est pas plus décidé aujourd'hui. Pour Jacques, éleveur de 60 ans, Macron est à notre écoute, mais aussi à celle des structures environnementales qui dénigrent l'élevage. Pour Edith, éleveuse, les extrêmes n'apportent jamais rien. La plupart des paysans cités par Le Parisien restent en tout cas attachés à l'Union européenne, pourvoyeuse d'aides financières indispensables. Edith résume, on attend des actions concrètes, des compliments, on en a plein les granges.
Un reportage publié par La Croix, plein les granges, j'aime bien l'expression. Un reportage publié par La Croix a retenu votre attention, Hervé. Il y est question d'un village de l'Indre qui se divise autour d'un projet de centre d'accueil pour demandeurs d'asile.
À Belabre, personne ne s'attarde sur la place de l'église où se trouvent pourtant la plupart des commerces. Depuis que le 9 février 2023, le conseil municipal a voté l'installation d'un centre d'accueil pour demandeurs d'asile dans une friche industrielle abandonnée, le village de 960 habitants est coupé en deux et à lire La Croix, c'est comme une miniature de la France qui se dévoile. Des amitiés et des familles ont été brisées, dit un partisan du projet. Les opposants, eux, attaquent le maire, alors que c'est un opérateur privé qui a répondu à un appel d'offres régional, le tout au titre du schéma national d'accueil destiné à équilibrer la répartition des migrants entre les départements. Dans les manifestations contre le projet, on a vu des militants du Rassemblement National et de Reconquête, le parti d'Éric Zemmour, venus d'on ne sait où grossir les rangs des opposants. « Je me suis fait traiter de tous les noms par des jeunes qui n'étaient même pas d'ici », témoigne une professeure d'histoire, partisane du projet, qui voulait dialoguer. On est toujours l'étranger de quelqu'un.
Et pendant ce temps, des conférences internationales se tiennent à Paris pour évoquer les guerres en cours en Ukraine et dans la bande de Gaza.
Avec des calendriers, des objectifs très différents, samedi, des négociateurs israéliens, américains, qataris et égyptiens auraient abouti à Paris à un projet d'accord. Selon le journal israélien Haaretz, il prévoit cet accord, une trêve de 6 semaines et la libération de 200 à 300 prisonniers palestiniens en échange de 35 à 40 otages du Hamas. Les discussions se poursuivent cette semaine au Qatar. Échéance le 10 mars, début du Ramadan. L'autre conférence, c'est celle d'aujourd'hui, dont on a parlé dans nos journaux, sur le soutien occidental à l'Ukraine. Les Échos livrent un résumé détaillé des enjeux. Augmentation des aides à l'Ukraine, renforcement des sanctions contre la Russie, avec des confidences distillées par l'Élysée, dont celle-ci. On doit faire douter Poutine. Il faut que la Russie comprenne notre très grande détermination. Les images du Salon de l'agriculture ce week-end risquent de brouiller un peu le message.
Oui, parce qu'il faut aussi faire douter ceux qui mettent le bordel, comme dit Macron. Vladimir Poutine, justement, ne relâche pas sa pression sur Alexei Navalny. Même après sa mort, le Kremlin empêche l'organisation de funérailles de l'opposant.
C'est à lire dans Le Parisien. Samedi, les autorités russes ont rendu le corps d'Alexei Navalny à sa mère, après une semaine d'incertitude et alors que les causes de sa mort restent encore troubles. Mais on ne sait toujours rien de ses obsèques et le journal rappelle que la mère de l'opposant accusait le Kremlin la semaine dernière de vouloir conditionner la remise de sa dépouille à la tenue d'obsèques en secret. Le pouvoir pouvoir russe veut éviter à tout prix un recueillement dans un lieu public qui ferait de Navalny une sorte de martyr, analyse une experte dans Le Parisien. Le Kremlin redoute aussi que le symbole ne perturbe la campagne pour l'élection présidentielle de la mi-mars en Russie. Après l'annonce de la mort de Navalny, quelques 400 personnes auraient été arrêtées en Russie, selon les ONG, pour avoir voulu honorer sa mémoire.
On termine avec cette grave question posée par Le Figaro. Le smartphone peut-il disparaître ?
Interrogation quasi existentielle, car que serions-nous, pauvres petits humains déconnectés sans notre précieux appendice électronique ? L'envoyé spécial du Figaro à Barcelone, où se tient le congrès mondial du mobile, explique que l'heure est grave, puisqu'en 2023, les ventes de smartphones ont baissé pour la sixième année consécutive. L'iPhone rapporte encore 200 milliards de dollars par an à Apple, donc tout n'est pas fichu pour tout le monde, mais vous lirez avec une curiosité mêlée d'effroi le catalogue des appareils bientôt indispensables, ou pas, vous déciderez. Par exemple, le casque de réalité mixte, qui pour l'instant n'est pas prévu pour l'usage nomade, écrit Le Figaro, autant rester assis devant sa télévision donc. Ou encore le AI PIN, un badge connecté à ChatGPT, qui permet de commander des recherches sur Internet et de voir le résultat dans la paume de sa main grâce à un mini projecteur. Ça fera baisser le nombre d'heures passées devant un écran, puisque l'information est au creux de votre main, et ça laissera peut-être du temps pour téléphoner.
Ouais, pour aller se promener dans la forêt plutôt, ça c'est quand même plus utile que de passer sa vie au téléphone. Hervé Gattegnaud, merci. On retrouve évidemment cette revue de presse sur l'application Radio Classique, de même que l'entretien avec l'ancienne ambassadrice de France à Moscou, Sylvie Berman, dont j'ai oublié de rappeler qu'elle avait publié l'an dernier un ouvrage qui raconte sa vie d'ambassadrice. Ça s'appelait Madame l'Ambassadeur. Merci Hervé, à demain.
À demain.
Luc Ferry, c'est notre esprit libre du lundi.